l'opportunité de passer la fête avec trois différentes congrégations. J'ai passé la fête en première partie en Martinique. C'était vraiment une grande joie de revoir les frères, de vous revoir en Martinique. Et puis après cela, nous sommes allés, ma femme et moi, nous sommes allés et sur la Barbade. Et c'était très bien, malgré que le temps était très court. On n'a pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de passer beaucoup de pour passer avec les frères en Barbade. C'était triste de partir parce que nous avons passé seulement un seul jour. Mais dans l'ensemble, c'était bien de les revoir. Et puis, et la joie, le bonheur. Et puis, de pouvoir passer un peu de temps avec Monsieur Wicks. Et puis, après cela, nous sommes partis sur la Guyana. Et c'était très bien. C'était la première fois que ma femme et moi sommes allés à Guyane. Et c'était vraiment une expérience avec le frère de la Guyane. C'est en Guyana, pour ne pas confondre avec la Guyane française. Bon, dans l'ensemble, chers frères et sœurs, c'est bien de se rentrer chez soi. Maintenant, après avoir vécu des jours dehors et nous sommes retournés, et j'espère que chacun de vous a fait du bilan, le bilan de l'année, de cette année, et 2022. Et maintenant, vous avez fait des projections pour l'année à venir, en ce qui a trait à votre vie spirituelle, et parfois même dans la vie physique. Il y a des gens qui prennent du temps pour planifier pour l'avenir, soit dans leurs finances et leur travail, tout cela, et même dans la famille. On sait bien cela. Bon, ici en Floride, en centrale, Floride centrale, comme on peut le dire, ici à Clermont, il fait beau temps. Il fait beau temps, on a du soleil. Et une fois fini ici, je dois partir sur Melbourne. Je vais visiter les frères de Melbourne et j'aurai le sermon là à Melbourne. Mais dans l'ensemble, c'est très bien. Il fait beau temps et c'est un grand privilège de pouvoir célébrer à nouveau un sabbat hebdomadaire que Dieu a mis à notre disposition et nous a demandé de mettre de côté pour sanctifier et pour un but bien déterminé. Vous et moi, nous devons prendre du temps pour adorer Dieu, nous devons prendre du temps pour apprendre de lui et aussi pour nous fraterniser les uns avec les autres. Même si je ne suis pas avec vous physiquement, mais je suis avec vous sur le petit écran et j'espère que là où vous êtes, vous pouvez vous fraterniser les uns avec les autres. Et par exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Et si vous avez cette opportunité, vous pouvez les visiter, allez visiter-les. S'il y a des gens que vous savez qui ont dans le besoin, peut-être de la nourriture, de quoi que ce soit. Chers frères et sœurs, c'est notre devoir de pouvoir pour nos frères qui sont dans le besoin. Et je sais que la plupart d'entre vous le fait. Et ce n'est pas quelque chose qui est nouvelle pour vous. Et je sais très bien, je sais pertinemment que beaucoup d'entre vous prenez soin les autres. Bon, ici en Amérique, si vous étiez ici en Amérique et si vous faites l'actualité, si vous regardez la télévision, si vous lisez les journaux, on ne parle qu'une seule chose. On ne parle que des élections. Il y a beaucoup d'engouement partout où on y va. Il y a des élections, il y a des manifestations, tout cela. Et là encore, cette année, ça, c'est un peu différent dans les années antérieures parce qu'on voit qu'il y a de la violence. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de menaces et les gens sont très divisés en ce qui a trait à leur candidat. Et pour la plupart des gens, ils confrontent tellement de problèmes. Ils confrontent un problème d'inflation, ils confrontent un problème de pénurie d'essence et puis le coût de la vie qui s'augmente. Et puis, non seulement ça, il y a l'incertitude. Et pour eux, il n'y a que des solutions qui peuvent être apportées par le candidat. C'est ainsi qu'il y a des candidats de la droite, il y a des candidats de la gauche, il y a beaucoup de blâmes, il y a beaucoup de dissensions, il y a beaucoup de querelles. Et, chers frères et sœurs, c'est vraiment écœurant de voir ce qui se passe autour de nous. Il y a beaucoup de haine. Il y a des gens qui n'aiment pas les autres. Il y a des gens qui cherchent à détruire les autres. Et pour cela, il y a aussi l'orgueil des gens. Mais nous, dans l'Église de Dieu, nous avons notre part à faire. Nous avons notre responsabilité vis-à-vis de ces choses. Vous savez, chers frères et sœurs, les fêtes annuelles de Dieu représentent le plan de Dieu pour l'humanité. Et comme nous l'avions vécu il y a 2, 3 semaines de cela, la fête des tabernacles, qui nous enseigne comment sera le monde de demain, c'est que c'est une préfigure du royaume millénaire du Christ, quand il reviendra et il instaurera la paix, la joie, le bonheur, non seulement pour nous dans l'Église, mais pour toute l'humanité. Et après les 7 jours de la fête des tabernacles, nous avions célébré le dernier grand jour que Dieu nous a montré dans son plan qu'il appellera tout le monde et même ceux qui sont morts. Et l'apôtre Paul a dit dans Romains, je vais juste citer cela, que si nous espérons seulement en ce monde, nous serons les plus misérables. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous avons été appelés pour avoir une vision d'un monde meilleur. Vous savez, le 20 janvier 2021, les États-Unis ont prêté serment à un nouveau président. Et sous le regard attentif de la plupart des pays du monde, M. Joe Biden a été élu pour succéder au président Donald Trump, avec une participation électorale qui a dépassé tout ce qui s'est fait dans l'histoire des États-Unis. Après une élection très controversée, les États-Unis restent plus divisé que jamais. Les accusations et contre-accusations ayant dominé l'actualité des mois jusqu'à maintenant. Et vous savez, tout cela a culminé avec l'émeute du Capitole le 6 janvier, la deuxième mise en accusation de Donald Trump et son acquittement ultérieur. Et pour beaucoup de mes amis, ces derniers temps ont été des moments d'émotion extrême. Il y a les conservateurs ont déploré l'élection de M. Biden, qui n'est rien d'autre que l'élection d'un socialiste, qui pourrait mettre fin aux principes démocratiques aux États-Unis. Et les libéraux, en revanche, sont ravis de leur victoire et ont presque attribué à M. Biden un rôle messianique, en attendant de lui et du vice-président Kamala Harris, qu'il sauve une nation qu'il considère comme s'éloignant de plus en plus d'un programme progressiste. Cependant, comme la plupart des gens de l'Église, nous savons que les vrais chrétiens ne devraient pas se laisser influencer par ces émotions extrêmes qui touchent les amis et la famille, qui n'utilisent pas la Bible comme fondement de leur vie. Vous et moi, le Christ a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et à plusieurs occasions, en maintes occasions, et même dans le livre de l'Apocalypse, le Christ a dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple », en parlant de Babylone. Et il a ajouté « Afin que vous ne participiez point à ses péchés ». Et, chers frères et sœurs, nous devons savoir qui est Babylone. Nous devons savoir pourquoi Dieu nous a demandé de sortir. Nous devons sortir du monde. Nous devons savoir que, chers frères et sœurs, ce monde n'est pas notre monde. Et nous avons la Bible, c'est notre livre, c'est notre manuel qui nous enseigne comment vivre. Et si vous avez besoin d'un titre pour le sermon de ce matin, c'est un titre très simple, « Soyez des ambassadeurs pour Christ ». Soyez des ambassadeurs pour Christ. Vous savez, le Christ a dit en plusieurs occasions qu'il est le chef de l'Église, qu'il est la tête de l'Église. Nous sommes un corps et notre tête, c'est le Christ qui dirige. Bon, la tête donne des instructions. Maintenant, le corps suit les instructions de la tête. Vous savez, quand vous décidez à marcher, vous levez vos pieds, ce n'est pas les pieds qui se lèvent, mais c'est le cerveau qui a donné des instructions aux pieds de se lever, de se déplacer. C'est le cerveau qui donne la direction qu'il faut marcher. Là, il faut aller. Par exemple, je vais à Melbourne, je vais conduire pour aller à Melbourne dans quelques heures, mais ce ne sera pas mes pieds, mais ce sera mes pensées, ce sera mon cerveau. Et c'est mon cerveau qui va donner la direction. Là, il faut aller. Et c'est ainsi pour le corps du Christ, parce que le Christ est la tête. Nous devons marcher, nous devons suivre les directions du cerveau, la tête, le Christ. Comme je vous ai dit, chers frères et sœurs, la Bible est le fondement de notre vie. En effet, les Écritures révèlent que quels que soient nos dirigeants humains et les changements qu'ils peuvent apporter ou non, les chrétiens ont des responsabilités universelles envers leurs dirigeants civils. Vous savez, c'est très facile pour nos chers frères et sœurs de nous plaigner des gens. Et il y a beaucoup de gens, mais dans l'Église, parfois, quand on lit sur les réseaux sociaux, par exemple, si on va sur Facebook, parfois c'est vraiment triste de voir que les gens qui sont dans l'Église, qui affichent des choses en matière politique et qui parlent de ceci, qui parlent de cela, alors que la Bible nous a dit qu'il ne faut pas nous impliquer de ces choses. Nous devons avoir une position neutre vis-à-vis de ces choses, vis-à-vis des politiques de ce monde. La Bible invite les chrétiens à se considérer comme des ambassadeurs du gouvernement de Dieu. C'est cela ce que vous êtes, C'est cela que je suis. Dieu nous a demandé de sortir du monde, bien que nous soyons encore dans le monde. Vous savez, un ambassadeur, il vit dans le pays, là où il est, il a été désigné. Il peut tout faire, mais cependant, il a ses limites. Il ne peut pas participer à certaines choses, il ne peut pas participer à des actions politiques du pays. Cela devrait contribuer à équilibrer nos interactions avec le gouvernement civil où nous résidons. Nous portons à 2 Corinthiens au chapitre 5. Lisons le verset 20. 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 20. L'apôtre Paul qui parle, qui dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En tant qu'ambassadeurs, chers frères et sœurs, ambassadeurs pour Christ, nous représentons Christ. Si vous êtes ambassadeur de la France dans un pays quelconque, vous représentez le gouvernement français là où vous êtes. Ici, dans ce monde, en ce bas monde, nous représentons le gouvernement du Christ. Voilà la raison pour laquelle le Christ a dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. En quelque part, le Christ a dit qu'il est le tronc de l'arbre et nous sommes les branches. Et quand nous sommes les branches, les branches ressemblent au tronc de l'arbre. Et ainsi, si nous continuons à recevoir la sève, notre nourriture du tronc de l'arbre, à coup sûr, nous porterons des fruits dignes de l'arbre. Nous portons maintenant à Philippiens au chapitre 3, verset 20. Philippiens au chapitre 3, verset 20. Dans Philippiens chapitre 3, verset 20, l'apôtre Paul nous explique ici, mais nous, nous sommes citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, au verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'ajoutir toutes choses. Pendant la fête des tabernacles, je suis sûr que, chers frères et sœurs, vous avez fait de bonnes provisions en ce qui a trait à ces choses. Et nous savons que le Christ, à son retour, nous transformera, il nous donnera un autre corps, un corps spirituel, un corps qui ne sera plus assujetti à la maladie, à la mort, et aussi nous aurons toute la connaissance dont nous avons besoin. À ce moment, nous sommes limités. À ce moment, parfois, nous pensons que on peut penser qu'on a assez de connaissances dans les matières politiques. Il y a beaucoup de gens qui parlent des choses politiques. Il y a des gens qui parlent, ils s'expriment, ils ont leur opinion. Mais, chers frères et sœurs, quand vous regardez très près, ces gens-là sont des ignorants. Ils ne savent rien. Mais Dieu, notre Père, sait tout. Et nous devons nous rapprocher de lui, nous devons lui faire confiance. Et Dieu, dans sa parole, nous a fait des prophéties. Il nous dit ce qui vont arriver bientôt. Et nous commençons d'ores et déjà à voir la manifestation de certaines choses. Et l'apôtre Paul a dit que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Et on peut le voir. Et il y a beaucoup de problèmes. Et parfois, quand on regarde les nouvelles, on voit les gens qui se plaignent du coût de la vie. Et ici en Amérique, il y a beaucoup de crimes, il y a l'incertitude, il y a des gens qui ne savent quoi faire. Ils ont beaucoup de questions. Mais vous et moi, chers frères et sœurs, nous avons les réponses, non parce que nous sommes plus intelligents qu'eux, non parce que nous sommes des érudits en matière politique, mais parce que nous avons la Bible. Nous avons la Bible. Dieu ne nous a pas laissés ignorants en ce qui va se passer. Et quand nous lisons le livre de Daniel, qui est rempli de prophéties, Jérémie et Matthieu 24, l'Apocalypse et ce que nous appelons aussi les prophètes mineurs comme Amos, Haggaï et Michée, la Bible est remplie de prophéties. Mais, chers frères et sœurs, nous devons faire attention à ne pas. Parfois, il y a des gens de l'Église qui font des spéculations. Et pendant qu'ils font des spéculations, ils font des pronostics et ils utilisent la Bible pour appuyer leur opinion. Ils peuvent vous dire, bon, voilà ce qui va arriver. Et puis, bon, mais il faut faire attention à tout cela, parce que tout cela ne sont que des spéculations. Quand on fait des spéculations, et parfois ça n'a rien à voir avec les prophéties bibliques. Nous devons être patients, nous devons prendre notre temps, mais tout en respectant et les lois de Dieu, tout en respectant ce que Dieu a mis à notre disposition, ce que nous devons, comment nous devons nous comporter. Dans Philippiens 3, 20, nous rappelle que quelle que soit la rancœur politique dans notre nation, nous avons des choses à faire. La première chose, chers frères et sœurs, c'est d'obéir aux lois civiles. Nous devons obéir aux lois civiles. Nous devons payer nos impôts et nous devons respecter les fonctions de nos dirigeants et prier pour eux afin de mener une vie pacifique et pieuse. Je pense que il y a des gens parfois qui vous disent, ah bon, ce monde corrompu, bon, je n'ai rien à faire, je n'ai rien à voir avec ces gens corrompus. Il est vrai, chers frères et sœurs, qu'ils sont corrompus, mais Dieu nous a demandé de faire notre part. Notre part, c'est d'obéir aux lois civiles. On ne va pas, sous aucun prétexte, lui dire, ah bon, ok, puisque nous sommes ambassadeurs du monde de demain, nous sommes ambassadeurs du Christ, nous allons nous comporter d'une façon qui est contraire à la loi de notre pays. Nous devons faire attention à cela. Et nous devons payer des impôts. Il y a des gens qui font de leur mieux pour ne pas payer les impôts. Ils cherchent les petites bêtes. Quand on ne paie pas les impôts, c'est que on est devenu des voleurs. On est devenu voleurs. C'est qu'on vole, on triche. Dieu nous dit il ne faut pas dérober. Nous devons respecter les fonctions de nos dirigeants. Là encore, chers frères et sœurs, il y a sur les pages de Facebook, il y a des gens de l'Église qui parlent parfois avec beaucoup d'arrogance contre certains dirigeants. Parce que des dirigeants qu'ils n'aiment pas, si ce dirigeant ou ces dirigeants font partie de la gauche, et eux, ils pensent qu'ils sont de la droite, que la droite représente la justice, tout cela, la liberté. Chers frères et sœurs, nous devons faire attention Nous devons faire attention à ces choses-là parce que notre adversaire, le diable, que la Bible nous dit qu'il ne dort pas et qui est toujours bien éveillé, il cherche à nous diviser. Et parfois, même dans l'Église, il y a des gens qui s'expriment. Et là encore, on doit faire attention parce que quand on s'exprime d'une façon qui n'est pas vraiment en accord avec la Bible, on peut faire du tort aux autres. Et la Bible nous dit, nous devons pratiquer la règle d'or, c'est d'aimer les autres comme nous-mêmes. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et si nous savons qu'un peut-être une conversation va faire du tort à notre frère, nous devons nous abstenir. La Bible nous donne beaucoup, beaucoup d'exemples de ne pas avoir des disputes, de ne pas nous baser sur des querelles, des généalogies, tout cela. Nous devons repousser, comme l'apôtre Paul a recommandé à Timothée, de repousser les conversations profanes. Et nous savons, il y a beaucoup, malheureusement, il y a des gens dans l'Église qui encore, parfois, ils pensent qu'ils ont la liberté et qu'ils peuvent s'exprimer. Mais surtout le sabbat, ce n'est pas un moment quand Dieu nous a demandé de mettre le septième jour à part pour un but bien déterminé. C'est de nous rassembler, c'est d'écouter un sermon, une sermonnette, et de chanter des cantiques, et tout cela, et surtout de nous fraterniser les uns avec les autres. Le temps qu'on a pour se fraterniser, il faut avoir de l'amour. Et il n'y a pas d'amour quand on commence à avoir des disputes, quand on commence à parler des choses de ce monde, des choses politiques. Ça, c'est pas bon. C'est que maintenant, on transgresse le sabbat. Même si on est à l'assemblée, même si on vient à l'assemblée, même si bon, on est avec tout le monde, mais quand nous commençons à inclure des pensées de ce monde, des pensées qui sont purement charnelles, et maintenant, Dieu n'est plus là. Nous abandonnons notre devoir, ce que nous devons faire, parce que nous devons faire de notre mieux par notre esprit et l'esprit de Dieu, l'esprit que Dieu nous a donné pour édifier les autres, pour les réconforter. Par exemple, quelqu'un qui vient à toi et puis cette personne a un problème et puis bon, vous pouvez faire votre mieux pour aider cette personne. Et ce n'est pas le moment d'avoir des disputes en ce qui a trait à la politique, parce que nous devons vivre une vie pacifique et pieuse. L'apôtre Paul nous a dit autant que cela dépend de nous, rechercher la paix avec tout le monde. Et ce n'est pas cela qu'on voit dans le monde. Dans le monde, surtout maintenant avec les élections partout, c'est beaucoup de disputes, beaucoup de chicaneries, beaucoup de rivalités et compétitions et qui ne sont pas conformes à la loi de Dieu, mais plutôt c'est la voie de Satan, le diable. Satan est lui qui cause les divisions. Satan n'aime pas l'humanité et Satan continue à inculquer, à inoculer ses pensées, ses venins de malice, de haine dans nos pensées. Reportons-nous à Matthieu au chapitre 22, disons les versets 15 à 22. Matthieu au chapitre 22, versets 15 à 22. C'est le Christ qui nous donne cette directive ici, en Matthieu chapitre 22, verset 15. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Vous savez, il y a des gens qui peuvent venir à vous pour chercher pour vous, pour commencer une discussion, une conversation. Mais parfois, c'est pour vous chercher à vous mettre dans l'engrenage. Et c'est ce que les pharisiens faisaient à ce moment-là. Il allait se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Au verset 16, il envoyait auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Quelle flatterie! Il faut voir comment les gens ils cherchent à mettre Jésus dans l'engrenage, mais ils utilisent la flatterie. Non, des mots vraiment flattants. Verset 17. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Verset 18. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Verset 19, montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Verset 20, il leur demanda, de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? Verset 21, de César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous savez, chers frères et sœurs, en gardant dans nos pensées ces versets-là, nous apprenons à nous occuper de nos propres affaires. Nous n'avons pas à nous occuper des affaires de ce monde. Ça, le monde, ça c'est pour le monde. Notre temps, chers frères et sœurs, est précieux. Nous n'avons pas le temps pour faire des disputes. Nous n'avons pas le temps pour parler des choses politiques. Mais notre temps, Dieu nous a donné du temps pour prendre soin de nous-mêmes, prendre soin de notre famille. Mais avant tout, de grandir spirituellement. Le temps qu'on peut passer à peut-être à regarder la télévision et à faire des prédictions, tout cela. On peut prendre du temps pour étudier la Bible, étudier, méditer sur la Bible et surtout prier de nous rapprocher proche de Dieu, de ne pas laisser ces choses-là et envahir nos pensées. Vous savez, ces versets-là ont été écrits à une époque où un empereur romain incroyablement corrompu régnait sur la majeure partie du monde civilisé. You know? Parfois, on peut garder le monde, on regarde autour de nous, et puis bon, parce que je me rappelle quand j'étais enfant, et on parlait beaucoup des choses politiques, mais à ce moment-là, on ne pouvait pas parler ça publiquement parce que c'était vraiment censuré. Mais à ce moment-là, tout le monde pensait que, ah bon, une fois qu'on se débarrasse du dictateur, à ce moment-là qui était président, maintenant, tout va s'arranger. Notre monde sera merveilleux, on aura la liberté, on pourrait parler aisément, on va faire ceci, on va faire cela. Et malheureusement, chers frères et sœurs, après le départ du président, Il y a d'autres présidents qui viennent, qui se succèdent. Et bon, ça n'a pas changé. Par contre, les crises ont empiré. Et c'est notre monde, chers frères et sœurs. Le monde, les hommes ne peuvent pas se gouverner. Nous ne devons pas avoir notre cœur dans ce monde, dans les dirigeants de ce monde pour résoudre nos problèmes. C'est malheureusement le cas pour certains parce qu'ils pensent que maintenant, on va voter pour un candidat, on va voter pour certains hommes, pour certaines dames, et puis maintenant, cela va arranger. Maintenant, et il y a tellement d'exemples, et ça vraiment, parce que 3 ans de cela, 2 ans de cela, on pensait que maintenant, avec un autre système, une autre forme de gouvernement, maintenant, il y aura beaucoup plus de stabilité, il y aura beaucoup de progrès dans le pays, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Par contre, on a beaucoup de. On fait face maintenant à une crise de financière, et que les gens ne savent quoi faire. Reportons-nous maintenant à Romains au chapitre 13. Nous allons lire les versets 1 à 7. Romains chapitre 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Vous savez? Quand nous conduisons sur l'autoroute, il y a un signe qui dit, ah, il faut voyager à 40 km par heure. Et puis, on peut dire, ah, ça a été mis là par un homme. Bon, je m'en fiche, je peux rouler à 50, à 70, comme je le veux. Mais la Bible nous dit que nous devons respecter l'autorité. Nous devons nous soumettre, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Là, je vais élaborer un peu. Autant que cela n'a rien à voir avec les lois de Dieu. Même si c'est quelle que soit cette personne qui est en charge, et cette personne nous a demandé de transgresser la loi de Dieu, on ne va pas le faire. Vous vous rappelez l'histoire de Daniel qui a dit, connaissez-vous, ô roi, que nous n'allons pas adorer vos dieux. Et nous devons être fermes, nous ne devons pas faire des compromis quand il s'agit de la loi de Dieu. Mais cependant, nous devons nous soumettre à toute loi qui est, même si c'est pas juste à nos yeux. Et pourquoi? Au verset 2, il dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Si, maintenant, comme je vous ai dit, si les lois de la circulation vous disent, oh, il ne faut pas rouler à 50 km par heure, et vous devez rouler à 40 ou à 35, vous devez respecter. Maintenant, sans quoi, vous allez avoir une contravention. Et quand on vous donne cette contravention, vous ne pouvez rien faire. Malheureusement, nous voyons Et ces jours-ci, il y a beaucoup de gens maintenant qui attaquent les policiers. Parfois, même ils tuent les policiers. Et ça, c'est vraiment triste, le monde où nous vivons. C'est vraiment triste. Nous continuons. Et verset 3, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir ceux qui font le mal. Verset 5, il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Quand nous faisons toutes choses à la manière que nous avions appris de la Bible, de la parole de Dieu, chers frères et sœurs, nous n'avons rien à craindre. Et cela nous donne la paix d'esprit. Cela nous donne, contribue à notre bonheur. Nous pouvons marcher, nous pouvons vaquer à nos activités en ayant la tête légère, parce que nous n'avons rien à craindre. Bien que il faut faire attention parce que le monde est un monde dangereux. Il y a des gens qui peuvent vous attaquer, même quand que vous êtes des innocents. Mais ce n'est pas là le sujet de ma conversation. Le sujet de ma conversation, c'est que quand vous faites toutes choses et selon la droiture des choses, et par exemple, si, comme encore l'exemple de l'autoroute, si vous conduisez à la limite de la vitesse, vous respectez la vitesse de la limite qu'on vous a donnée, bon, et vous avez et tout les régulations, vous suivez toutes les régulations et de votre véhicule, vous n'avez rien à vous douter. Quand vous voyez le flic du côté de la route, bon. Je me rappelle, c'était 2 ans de cela, je revenais de Naples après avoir passé le jour des expiations avec les frères de Naples et j'étais de retour chez moi. Et puis il y avait un policier, un shérif, un député shérif. Il me regardait. Bon, il était dans sa voiture. Bon, peu importe. Et puis, j'ai regardé et sur mon petit écran. Bon, tout était bien. Et puis, bon, c'était parce que il n'y avait pas d'empressement. Et parce que je jeûnais à ce moment-là. Et puis, bon. Et puis, à quelques. Je dirais à peut-être 5 km, il a mis son signal et puis son feu. Et puis il m'a demandé de m'arrêter. Bon, il m'a demandé de voir mes papiers. Bon, j'avais le cœur vraiment calme parce que pour moi, je n'avais rien, vraiment rien à craindre. Et puis, il a pris son temps, et puis après cela, il a appelé un autre camarade, un autre policier était venu, et puis bon, et je ne savais pas, mais à ce moment-là, je me posais des questions, je me posais des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi, mais je n'avais pas vraiment, je n'avais aucune peur. Et puis finalement, il était venu me voir pour me dire, ah bon, oui, et votre assurance, on ne pouvait pas vérifier votre assurance. Et puis c'est ainsi que je lui ai donné les papiers relatifs à mon assurance. Et puis bon. Et puis après cela, Il m'a dit OK. Et bonne journée. Je lui ai dit bonne journée. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que c'est ce que la Bible nous explique ici. Quand on fait tout, c'est comme je me rappelle quand je travaillais à l'hôpital et si et vous travaillez en quelque part, vous travaillez pour une organisation. La plupart du temps, il y a un code, il y a c'est un livre. Un livre de code, c'est comme on dit ici, c'est policy, c'est politique, et qui vous donne toutes les directives. Comment, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon. Quand, si vous pratiquez ce livre-là, vous n'avez rien à craindre. Si quelqu'un vous dit, bon, OK, on va vous terminer, bon, ça c'est autre chose. Mais il faut donner la raison pour laquelle on va vous terminer, c'est la raison et qu'on va vous pénaliser. En respectant tous les articles du livre, vous n'avez rien à craindre. Et c'est ainsi dans notre société, en respectant les lois. Bon, par exemple, il y a dans mon quartier, il y a ce qu'on appelle une homeowner association. C'est une association pour tous ceux qui habitent dans cette communauté. Et dans cette communauté, il faut payer, il faut payer et chaque mois. Et puis, mais il y a des lois, il y a des lois, il y a des régulations. C'est-à-dire, on ne peut pas, je ne peux pas, par exemple, laisser des détritus. Sur le trottoir. Il faut prendre soin du gazon, il faut prendre soin des plantes, il faut que même les plantes doivent être à la hauteur des lois de l'association. Et même les clôtures, cela devrait être et certains standards. Tout doit être régularisé selon l'association. Et tout le monde doit suivre les mêmes règles. Tout le monde doit se conformer aux règles. Il n'y a pas une question de, ah bon, et c'est ma maison, je peux faire les choses à mon gré. Non. Et malheureusement, l'association a le pouvoir même de vous faire évacuer, de perdre votre maison. Si vous ne pratiquez pas les lois, si vous ne suivez pas les règles, on peut aller vous mener au tribunal et cela est arrivé en plusieurs occasions. Et puis, la plupart du temps, les tribunaux vont être d'accord avec l'association. Et maintenant, on peut, je cherche le mot. Mais on peut vous forcer à abandonner votre maison et même à vous débarrasser de la maison. Ça, c'est vraiment solide ici. Eh bien, c'est ainsi que, comme je vous ai dit, et la Bible nous donne des principes. Et ici, nous voyons les principes bibliques. Il faut obéir aux lois, les lois civiles, les lois de notre pays, les lois de notre nation. Et bien que nous sommes des ambassadeurs, bien que nous ne sommes pas des citoyens de ce monde, parce que nous sommes des citoyens, concitoyens du ciel, mais nous devons respecter les lois du pays comme les ambassadeurs qui vivent dans un autre pays, ils doivent respecter les règles et les lois de ce pays. Au verset 6, nous voyons, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Ah, vous savez, nous payons les impôts afin que qu'ils promulguent des lois, pas pour que nous puissions suivre les règles. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqué à cette fonction. Vous savez, parfois, il y a des gens qui vous disent, ah bon, je n'aime pas ce monsieur, je n'aime pas cette dame. Et ils disent des choses. Et ici en Amérique, il y a des comédiens qui vous font rire. Il y a beaucoup de plaisanteries à l'endroit de nos politiciens. Et parfois, c'est vraiment, parfois, c'est pas bon goût. On peut dire que c'est pas bon goût. Mais ils le font. Mais la Bible nous dit que les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Au verset 7, rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est vrai que je ne peux pas entrer, je ne peux pas voir un juge et puis lui dire, hey yo, je ne peux pas dire ça. Il faut démontrer l'honneur, la révérence. La Bible nous dit que l'impôt, à qui vous devez l'impôt, et que quand vient le moment, même si c'est dur, il faut payer l'impôt. Même si on n'a pas de l'argent, on ne peut pas dire, bon, je ne veux pas payer l'impôt. On paye l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. Si vous roulez sur la route, le flic vous demande de vous arrêter, je vais vous arrêter. Le flic vous a demandé de présenter votre licence, votre carte d'immatriculation. Il faut le présenter. Si le flic vous a demandé de sortir de la voiture, il faut sortir de la voiture. Vous ne devez pas résister. Et parce que Dieu nous dit que il faut rendre la crainte à qui nous devons la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Reportons-nous maintenant à 1 Timothée au chapitre 2. Nous allons lire les versets 1 et 2. 1 Timothée au chapitre 2. Timothée, ça vient juste avant de Timothée et ça vient juste après Thessaloniciens, de Thessaloniciens. 1 Timothée au chapitre 2, versets 1 et 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Verset 2, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Voilà notre part, chers frères et sœurs. Nous devons être sur nos genoux pour faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, quelle que soit la partie, quelles que soient les idéologies, quelles que soient les philosophies, quelle que soit cette personne est une bonne personne, cette personne est une mauvaise personne, mais nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour tous les hommes, pour les rois, parce que nous devons prier pour nos présidents, nous devons prier pour nos premiers ministres, nous devons prier pour nos juges, nous devons prier pour les gouverneurs, nous devons prier et pour les députés, les sénateurs, tous ceux qui sont placés pour nous diriger. Tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Et au verset 3, l'apôtre Paul ajoute, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous vivons dans un monde difficile, nous vivons dans un monde parfois qui est impossible. Quand on va dans certains endroits, dans certains pays, c'est vraiment impossible, presque impossible de vivre. Il y a la misère, il y a la pauvreté, il y a l'insécurité, et parfois on se demande, mais où sont les dirigeants? Que font-ils pour remédier la situation? Mais nous savons, chers frères et sœurs, que ce n'est pas notre monde. Nous savons que Dieu a placé un temps, Dieu a son plan. Et au temps marqué, Dieu va intervenir dans les affaires du monde. Et il va apporter la paix, la joie, le bonheur. Et nous devons de notre mieux pour nous rapprocher de Dieu. Mais nous pouvons nous rapprocher de Dieu en priant, en passant du temps avec Dieu sur nos genoux. Au lieu de regarder l'aspect négatif des choses, au lieu de blâmer les dirigeants, au lieu de prendre du temps de se quereller avec les autres. Ah bon, je pense que M. X serait mieux dans une telle position, ou M. Y ne fait pas son travail. Chers frères et sœurs, nous devons prier. Dieu nous demande de prier. Prenons du temps pour jeûner. Prenons du temps pour méditer comment on peut avancer spirituellement, on peut grandir. Nous venons juste de terminer, de clôturer cette année la fête, les fêtes annuelles cette année. Mais nous avons une autre année à venir. Nous avons des années à venir avant le retour du Christ. Prenons du temps pour nous rapprocher de Dieu. Prenons du temps pour nous vraiment, pour grandir, pour croître dans la connaissance de Dieu, dans la vérité, dans la justice, la paix, l'amour. Et afin que nous soyons de vrais ambassadeurs pour Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, ces versets ont été écrits, et comme je vous dis, à une époque où il n'y avait pas vraiment, il y avait un dictateur, un homme avec lequel la plupart des chrétiens n'étaient pas d'accord en matière de religion ou de politique. Et ça arrive, on ne peut pas vraiment être d'accord avec tout le monde quand il s'agit de la religion ou de politique. Et il y a des chrétiens qui pensent que, bon, s'ils choisissent quelqu'un qui se dit chrétien ou quelqu'un qui parle de Dieu, ah bon, maintenant ça, c'est leur choix, c'est le meilleur choix. Alors que, chers frères et sœurs, Dieu ne nous a jamais dit qu'il va y avoir dans ce monde un chrétien, quelqu'un, un dirigeant chrétien pour changer les choses. La Bible nous parle dans Daniel, nous a fait l'illustration dans Daniel. Après les dix orteils qui sont formés d'argile et d'acier vont disparaître. Ça, ce sera le dernier royaume du monde, parce que la Bible nous parle de la bête qui viendra. Il y aura deux bêtes, l'un qui est un personnage religieux et l'autre qui sera un personnage politique. Et la Bible nous dit que les rois, c'est-à-dire les dirigeants, vont lui donner le pouvoir. Ils vont lui donner leur pouvoir. Et Il sera un dictateur, et mais le Christ reviendra. Il aura ce soir la petite pierre que Nebuchadnezzar a vue dans son rêve. Et le prophète Daniel l'a bien souligné, que cette petite pierre deviendra une grande royaume et qui n'aura aucune fin. Et ce royaume subsistera pour toujours. Chers frères et sœurs, nous sommes ambassadeurs. Nous sommes les ambassadeurs de ce royaume. C'est notre but, c'est notre aspiration. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous avions gardé ensemble la fête des tabernacles. Voilà pourquoi nous mettons notre confiance en Dieu. Nous savons que au moment opportun, Dieu va intervenir dans les affaires du monde. Nous savons, chers frères et sœurs, que ces versets sont encore difficiles à suivre aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement français, le gouvernement des États-Unis et partout feront presque certainement à l'avenir et qui ne devraient pas plaire aux vrais chrétiens. Nous le savons. Parfois, les gens pensent que ils parlent ici en Amérique des démocrates, ils parlent des républicains, ils pensent que, bon, oui, si les républicains sont au pouvoir, ce serait mieux, ils auront la liberté, ils auront beaucoup plus d'argent, alors que les démocrates pensent, ah bon, si les démocrates sont au pouvoir, maintenant nous aurons beaucoup plus de justice, nous aurons vraiment de l'argent, du travail, tout cela. Mais chers frères et sœurs, la Bible déclare que nous sommes censés agir de la même manière envers notre gouvernement, indépendamment des nombreuses questions sur lesquelles la plupart des Américains se concentrent. La Bible dit qu'il faut prier pour nos dirigeants, quel que soit leur parti ou leur politique. C'est votre devoir, c'est mon devoir. Nous devons prier pour eux, nous devons les aimer de tout notre cœur. La Bible dit de montrer du respect à nos dirigeants, indépendamment de ce qu'ils publient sur Twitter. La Bible dit de payer des impôts, que ces impôts servent à financer un mur, des soins de santé universels, des expéditions militaires ou une foule de politiques gouvernementales avec lesquelles nous pouvons être d'accord ou non. Non, ce n'est pas notre devoir, chers frères et sœurs. Ce n'est pas à nous de dire, ah bon, voilà comment il faut dépenser l'argent. Ce n'est pas à nous de dire, ah bon, et maintenant, si on n'est pas satisfait, on va être des militants. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent être des militants, ils peuvent changer la course des choses. Chers frères et sœurs, ce n'est pas à vous, ce n'est pas à moi de changer la course des choses. Cette transition de pouvoir peut être un bon moment pour les chrétiens de se demander s'ils agissent vraiment comme des citoyens du monde des cieux et des ambassadeurs chrétiens. Une chose que nous pouvons faire est d'évaluer comment nous, Français, Américains, qui que vous soyez, avons fait pour prier pour le président dans ces 2 dernières années, ou le président avant. Parfois, pensez-vous que, ah bon, j'aime ce monsieur, il me paraît droit, il me paraît juste, bon, je fais prier pour lui, parce que je l'aime. Et puis, bon, un autre président, ah bon, je ne l'aime pas, mais je ne vais pas prier pour lui. Et cette question pourrait nous aider à identifier un problème plus important que nous devons aborder dans nos vies. Si nous prévoyons de prier davantage pour quelqu'un parce que nous réalisons que nous devons améliorer nos prières, quel que soit le président en question, et que nous essayons de grandir en maturité chrétienne, ça, c'est merveilleux. La croissance est toujours bonne. Toutefois, si nous prévoyons de prier davantage ou moins pour que Dieu guide un président ou quelqu'un qui est au pouvoir en raison de motivations politiques, nous avons encore une leçon à apprendre. Si nous permettons à la politique de dicter la façon dont nous suivons les Écritures, alors nous avons permis à notre nation de devenir une fausse idole. Une fausse idole au lieu de suivre les instructions claires de la Bible. Vous savez, il y a quelque temps de cela, j'ai lu sur Facebook quelqu'un qui parlait de lui-même, et cette personne était un membre de l'Église, et cette personne s'était identifiée en tant que nationaliste. Vous savez, quand on dit que on est nationaliste, on doit défendre notre nation. Ça, c'est un peu dur, surtout quand on comprend bien ce que la Bible nous dit. Lorsque l'apôtre Paul nous dit que nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes concitoyens du ciel. Et parce qu'il y a des gens qui pensent que maintenant il faut s'impliquer, il faut lutter. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui prennent parti de certaines personnes. Alors, chers frères et sœurs, nous ne devons pas avoir comme idole notre nation. Quand Dieu nous a appelés dans son Église, il nous a demandé de nous repentir. Nous nous sommes repentis de nos péchés. Nous avons été baptisés, lavés de nos péchés. Et nous avons reçu un don, le don du Saint-Esprit. Et maintenant, la Bible nous dit que nous faisons partie d'une race royale. Nous sommes concitoyens de Christ. Et nous devons, il y a en nous, parfois où nous allons, les gens vont nous poser des questions, mais d'où venez-vous? Et parfois, quand les gens me posent des questions, mais d'où venez-vous? Et c'est bon, j'étais né à Haïti, j'ai grandi à Haïti, j'ai vécu une partie de ma jeunesse en Haïti. Mais après cela, je suis immigré sur les États-Unis. Et puis, bon, j'ai fait mes études aux États-Unis. Et puis, bon, c'est tout. Et si on me pose d'autres questions, bon, ouais. En ce qui a trait, je suis américain, je suis haïtien, j'ai en moi la culture haïtienne et j'aime encore la cuisine haïtienne, beaucoup la cuisine haïtienne, j'aime beaucoup la musique haïtienne, il y a beaucoup de chants, beaucoup de choses, j'ai beaucoup de nostalgie de mon enfance et c'est bien cela. Et je suis toujours content quand je voyage sur Haïti de revoir les montagnes, les prés, tout cela. Et partout où je vais, j'aime la nature et j'aime le paysage, tout cela. Et c'est de même ici en Amérique, j'aime beaucoup l'Amérique. Et il y a beaucoup de choses ici. J'aime mes voisins, j'aime voyager. Non, c'est tout, c'est bien. Mais je dois apprendre. Faire attention de ne pas adorer le système. Parce que le système est un système qui est altéré par Satan le diable, un système qui a été séduit par Satan le diable. Et il y a beaucoup de gens, chers frères et sœurs, qui malheureusement, qui adorent encore le système. Et quand on adore le système, on devient esclave. Et on ne peut pas avoir de maître, la Bible nous dit, on ne peut pas servir Dieu et le système de Satan. Et nous devons comprendre cela. Nous devons faire de notre mieux et que de savoir que et nous devons prier pour tout le monde. Et nous devons prier pour un président démocrate, que pour un président républicain, ou vice-versa. Et simplement, en raison de leur parti politique, nous montre que nous avons encore du travail à faire si nous voulons vraiment être des ambassadeurs chrétiens. Nous ne pouvons pas prendre parti, nous ne pouvons pas nous laisser entraîner par ces histoires-là. Et parce que ça, là encore, il y a non seulement de la politique, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de haine. Il y a maintenant quelqu'un qui me parlait il y a quelque temps de cela. Cette personne cherche à catégoriser les gens. Il y a beaucoup de personnes. Par exemple, si et vous êtes d'une race, ah bon, on peut vous classifier et on peut penser déjà, on peut imaginer et votre philosophie à l'envers des choses. Alors que, chers frères et sœurs, nous devons être apolitiques, nous devons être neutres dans ces histoires-là. Dieu nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Qui que vous soyez, nous devons aimer nos prochains. Les vrais chrétiens ne seront jamais tout à fait d'accord avec les dirigeants politiques de ce monde. Mais ils reconnaîtront que leur obéissance à Dieu et aux instructions qu'il nous donne concernant la façon dont nous traitons nos dirigeants politiques n'est pas basée sur la politique du parti et sur l'individu qui est en fonction. Chers frères et sœurs, vous et moi, comme je vous ai dit, Dieu nous a appelés pour un meilleur royaume, pour un meilleur monde. Le temps viendra où nous prendrons naissance dans sa famille. Et à ce moment-là, nous aurons avec nous notre frère aîné Jésus-Christ. C'est lui qui est la tête, le chef de l'Église. Et d'ores et déjà, vous et moi, nous sommes ses ambassadeurs.